Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Zunshine.
Bonjour Ali.
Vous allez bien ?
Bien, et vous ?
Chef des actualités, oui ça va, chef des actualités à l'hebdomadaire Femme Actuelle. En fin d'émission, vous vous demanderez s'il faut instaurer le droit de vote à 16 ans.
Et oui, parce qu'à cet âge, on a le droit de faire plein de choses, de travailler, de créer son entreprise, d'exercer l'autorité parentale, mais pas de voter.
A tout à l'heure Marie-Laure, et ce matin dans Grand Bien vous fasse, un homme en colère se révolte contre l'empoisonnement de nos enfants, en particulier de leur alimentation. Erwan Manteour sonne la charge contre un environnement toxique qui impacte leur assiette et in fine leur santé, qu'il s'agisse de l'augmentation des cancers infantiles, de la flambée de l'obésité chez les enfants partout dans le monde, de la montée en flèche des allergies, des troubles du système immunitaire, reproducteur et nerveux. Nous vous dirons si le signal d'alarme d'Erwan Manteour est exagéré ou pas, quels sont les moyens concrets de ne plus empoisonner l'assiette de nos enfants, quelle est la responsabilité des industriels et de la grande distribution. Une grande enseigne vient par exemple d'annoncer le retrait d'additifs toxiques de ses rayons. Pour témoigner, réagir, le standard d'Inter 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com et vous pouvez également réagir sur notre page Facebook. Et puis comme tous les mardis, vous retrouverez les choses vues de notre psychiatre humaniste Christophe André.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
C'est quoi du cola ?
Du poison en bouteille.
Je peux avoir un croque-monsieur ?
Non.
C'est quoi un milkshake ?
Papa, je peux avoir un hamburger et des frites ?
Je peux avoir des pancakes ?
Ok, allez, debout. On se tire d'ici.
Quoi ? Non, pourquoi ?
Parce qu'il n'y a rien de comestible sur cette carte. Allez.
Un extrait de Captain Fantastic de Matt Ross en 2016 avec Viggo Mortensen. Bonjour Erwan Manteour.
Bonjour Ali.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes écrivain, coach sportif, coach en alimentation et en bien-être. Vous publiez « Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants » avec la collaboration du docteur Bernard Gébérovitch et qui connaît déjà un grand succès en librairie. J'ai l'impression que ça pourrait être vous dans cet extrait de Captain Fantastic.
Oui, parce que je me sens une grande responsabilité vis-à-vis du monde du vivant en général et en particulier envers mes enfants. Ma petite fille fait très attention à ce qu'elle mange, en tout cas à la maison, sachant qu'elle est exposée en dehors à des substances toxiques, mais j'essaie d'éviter au quotidien d'exposer mes enfants à un grand nombre de substances qui nous empoisonnent.
Alors dans votre ouvrage, vous citez un chiffre qui fait froid dans le dos. En Europe, 100 000 enfants qui meurent chaque année de maladies causées par l'environnement. D'où provient ce chiffre ?
Dans le livre, il y a les sources. Je ne connais pas les sources par cœur, malheureusement. Mais ce sont des chiffres officiels. Tout ce qui est dans le livre sont des sources officielles. Mais c'est quelque chose qui est préoccupant. Parce que on sait aujourd'hui d'où viennent les maladies pour une grande partie. On sait que l'alimentation est à l'origine de 7 à 8 maladies sur 10. On sait que si on mangeait bien, c'est-à-dire si on donnait à notre corps ce dont il a besoin en termes de matériel pour bien fonctionner, pour assurer nos fonctions vitales et cognitives, on n'aurait pas toutes ces maladies. Ces maladies proviennent d'un excès de sucre, d'un excès de gras, d'un excès de sel, d'additifs. Ils proviennent évidemment des pesticides auxquels on est constamment exposé, de perturbateurs endocriniens qui sont dans notre environnement, et certaines études font froid dans le dos. On nous annonce une étude dans Le Monde, Stéphane Foucard qui l'avait sortie, qui dit qu'en 2030, un homme sur deux sera stérile. 35% de la population sera obèse. C'est quand même très préoccupant, non ?
Erwan Manteour, vous vous considérez comme un lanceur d'alerte ?
Ah ben, je serais flatté qu'on dise que je suis un lanceur d'alerte, parce que si je suis un lanceur d'alerte, ça veut dire que je suis entendu. Mes livres se vendent bien, mais je pense que c'est pas encore assez. Il va falloir vraiment qu'il y ait une réaction plus importante de la part de la population en général, parce que je pense qu'il ne peut plus y avoir de révolution verticale. Les pouvoirs publics ne réagissent pas, parce que les lobbies sont devenus plus forts que les pouvoirs publics. Par exemple, pour prendre un sujet qui est un vrai sujet aujourd'hui, les industriels utilisent la science pour créer de l'ignorance et reculer la progression du savoir. C'est-à-dire que les cigarettiers ont modélisé des méthodologies pour nous enfumer. Donc la production aujourd'hui des études est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il va y avoir 700 études sur un sujet qui vont être financées par l'industrie et deux qui vont être des études indépendantes. Lorsqu'on va aller chercher où sont ces études, les médecins en général, ben, ils vont aller chercher le point de vue des 700 études qui disent la même chose.
Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Ali Rebéi.
Écrivain et journaliste spécialiste de l'environnement que l'on retrouve régulièrement le samedi dans l'émission CO2 Mon Amour de Denis Chessou. Dernier ouvrage paru chez Flammarion, S'engager pour un monde meilleur, avec une préface du prix Nobel de la paix Jean Jouzel. Vous partagez l'alarmisme d'Erwan Montéour sur l'assiette empoisonnée de nos enfants.
Ben, si on s'en tient au fait, oui, mais je suis d'un naturel désespérément optimiste, donc non. Je rappellerai deux, trois choses. La première, c'est qu'effectivement, on a des toxines dans notre alimentation, mais que la première porte d'entrée des toxines dans notre corps, c'est la peau. Donc, faut voir les cosmétiques. La deuxième porte d'entrée, c'est les poumons, c'est l'air qu'on respire. Donc, faut voir ce qu'on utilise en produits ménagers. Puis ensuite, il y a l'alimentation. Mais dans l'alimentation, il est très difficile de faire un lien de cause à effet, on est dans un monde rationnel et rationaliste, de faire un lien de cause à effet certain entre une toxine et une maladie. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de faire la différence entre ce lien, entre l'impact de cette toxine et puis l'hygiène alimentaire, le mode de vie en général, entre une personne qui avale des fruits bourrés de pesticides, qui fait pas de sport, et d'autres qui fait des sports, aller savoir comment ces toxines vont être métabolisées dans le corps. Voilà.
Bonjour professeur Irène Margaritis.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques à l'ANSES. C'est quoi l'ANSES ?
L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.
Alors, dans votre dernier rapport, vous pointez du doigt le niveau préoccupant des métaux lourds, des résidus de pesticides ou les perturbateurs endocriniens dans notre alimentation.
Oui, on le pointe, mais nous venons de réaliser un travail assez novateur justement pour contribuer à la révision de futures recommandations alimentaires dans le cadre du programme national nutrition santé. Et donc ce travail novateur consistait en un travail scientifique qui permettrait de disposer de repères alimentaires pour la population française de façon à ce qu'elle puisse effectivement se prendre en main, maîtriser son alimentation elle-même. Et ce qui est novateur dans ce travail, c'est que nous avons tenu compte non seulement des besoins nutritionnels, mais aussi de l'exposition aux contaminants. C'est-à-dire que nous avons utilisé un outil mathématique qui nous permet d'intégrer cette donnée-là.
Quel rôle joue votre agence de sécurité alimentaire pour limiter l'empoisonnement de l'assiette des Français et de nos enfants en particulier?
Nous avons une mission d'expertise scientifique, hein, c'est une expertise scientifique collective qui mobilise un très très grand nombre d'experts, et cette expertise collective basée sur la production de travaux scientifiques sur lesquels effectivement on peut revenir et dont auxquels nous sommes très attachés, nous permet d'aller vers la réalisation de travaux de synthèse et d'expertise et de réalisation d'évaluation des risques sanitaires, c'est-à-dire des risques pour la santé de notre population.
Pensez-vous que l'assiette de nos enfants est empoisonnée ou est-on trop alarmiste ? Eh bien, contactez-nous au 01 45 24 7000 ou par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Et il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre humaniste Christophe André.
Je suis votre thérapeute.
Choses vues.
La blouse blanche, bon, ça fait médical.
Grand bien vous fasse.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Ça s'est bien passé votre retraite avec Mathieu Ricard et le philosophe Alexandre Julien ?
Ah, c'était très bien, très joyeux, très. On a beaucoup discuté. Bon, ouais, c'était super.
Beaucoup médité.
Beaucoup médité, absolument, matin et soir.
Alexandre ouais. Julien que nous recevrons vendredi. Alors, qu'est-ce que vous avez vu cette semaine, Christophe ?
Ben, cette semaine, j'ai vu une assiette de bonbons me tendre les bras dans une loge avant une émission de télévision. Ouais, c'est affreux, mais j'ai pas pu résister. C'était une chouette émission, c'était la grande librairie de François Bunel sur la 5. Et alors que je m'installais dans ma loge avant d'aller au maquillage, j'ai vu qu'on m'avait préparé sur une table basse quelques bouteilles d'eau et une assiette de bonbons. Alors comme c'était 20h, j'avais pas mangé, j'en ai avalé deux, très exactement. Je m'en souviens parce que je trouvais ça idiot de manger ces deux petites boules de poison dans leur papier coloré, mais j'ai pas pu résister à la tentation du bonbon.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton, mais je vous ai apporté des bonbons.
Eh oui, c'est con d'offrir des bonbons, surtout par rapport à des fleurs. Mais le pire, c'est qu'offrir des bonbons, c'est quand même offrir du poison. D'abord parce que c'est du pur sucre, et le sucre n'est pas bon pour la santé. Pas seulement la santé des dents, puisqu'absorber des sucreries fait aussi monter en flèche notre glycémie, secoue le pancréas, qui provoque ensuite une petite hypoglycémie, qui pousse à remanger du sucre, etc. C'est comme ça qu'on devient accro. Ensuite, c'est mauvais, parce qu'on soupçonne le sucre d'être une des nourritures favorites des cellules cancéreuses. Vous savez qu'un des examens destinés à chercher des métastases cancéreuses dans le corps, qu'on appelle le TEP scan, consiste à injecter un sucre radioactif dans l'organisme des patients. Les cellules cancéreuses, qui ont besoin de beaucoup de sucre pour se développer, se font alors repérer en fixant ce produit sucré radioactif. Puis les bonbons, c'est comme les cigarettes, c'est un poison à double action. Le premier poison, c'est nicotine pour les cigarettes, sucre pour les bonbons. Et le second, tous les additifs, colorants, édulcorants, goûts artificiels, etc., que rajoutent les fabricants de tabac et de friandises et qui alourdissent encore les dégâts. On sait que les additifs contenus dans les sodas, les sucreries, sont soupçonnés de 1000 maux, dont l'hyperactivité chez certains enfants. Des études montrent qu'un régime allégé en saleté sucrée améliore les symptômes d'hyperactivité chez pas mal de ces enfants. Il faut donc lutter. Mais ça n'est pas facile, tant les bonbons et les sucreries sont associés dans nos esprits à des choses joyeuses et sympathiques. Dans la jungle des produits alimentaires modernes, nous sommes comme des animaux à qui on tend des pièges. On nous propose des petits appâts colorés, savoureux, pas chers, faciles d'accès. Comment cela pourrait-il être mauvais pour notre santé? Et pourtant, ça l'est. Allez, c'est simple. Tout ce qui est plein de couleurs et de saveurs, si c'est artificiel, c'est poison. Si c'est naturel, c'est tout bon. Ne renonçons donc, surtout pas, à admirer, renifler, savourer tout ce qui est beau, bon, coloré et savoureux et qui ne manque pas dans la nature. Les fleurs et les fruits sont là pour ça. Dites-moi, Ali, vous qui êtes un homme attentif à votre santé, ça vous arrive de craquer sur des bonbons?
De moins en moins, je dois avouer.
Félicitations.
Alors que je suis accro au sucre, non, les bonbons, j'essaye d'éviter. Et d'ailleurs, avec Frédéric Danhé tout à l'heure, on reviendra sur un additif, le E171, qui est très dangereux et qui est présent dans les confiseries.
Et puis qui sert à rien, surtout.
Et puis surtout qui sert à rien. Et à Rolontéour, vous buviez du petit lait. Hein.
Ah oui, bien sûr, je jubilais. Par contre, je voulais revenir sur quelque chose que Frédéric a dit tout à l'heure et qui est assez symptomatique, en faisant très court. Quand on fume, on peut sourcer l'origine du mal, les conséquences du tabac. Ce sur quoi jouent les industriels en ce qui concerne l'alimentation, c'est que c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de le sourcer. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le microbiote, qui conditionne la prévalence de toutes les grandes maladies inflammatoires et qui conditionne 70% de notre immunité, est attaqué par certaines substances comme les pesticides et les antibiotiques.
On y reviendra tout à l'heure, et le microbiote, c'est la flore intestinale. Les choses vues de Christophe André, c'est tous les mardis dans Grand Bien Vous Fasse. Grand Bien Vous Fasse, une émission préparée par Alexa Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
Side.
l'excellent Son qui interprétait Conrad.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h22 et on se demande comment éviter l'empoisonnement de l'alimentation de nos enfants avec le lanceur d'alerte Erwan Manteour, le journaliste et écrivain Frédéric Danhé et avec le professeur Irène Margaritis de l'ANSES.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai organisé cette réunion d'extrême urgence pour éradiquer définitivement ce fléau qui affecte la santé de nos enfants, la vente de gâteaux. Voici la liste de tous les ingrédients toxiques qu'il faut absolument bannir de notre vente annuelle. Pas de BPA, pas de MSG, pas de BHA, ni de BHT. Pas de soja, pas de sésame, naturellement, ni noisettes, ni œufs, ni lait, ni beurre, sel, ni sucre, ni blé. C'est clair ? Il y aura des vérifications. Et il y aura destruction de chaque gâteau hors norme. Et procédure contre les contrevenants.
Oui.
Un extrait de Bad Moms en 2016. Et on reçoit Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Vous vous appelez de l'Isère. Où exactement ?
Alors je suis à Saint-Hilaire-du-Touvet et j'appelle parce que déjà je vous remercie pour votre émission qui est vraiment très intéressante.
Merci.
Moi j'ai 4 enfants et l'alimentation est un point principal de mon éducation, mais je ne travaille pas. Donc ça demande du temps, ça demande des efforts. Et je sais que pas toutes les mamans sont dans mon cas. Elles travaillent, elles ont peu de temps. Et je me demandais s'il n'était pas bon de penser à prendre le relais, que l'éducation nationale et que l'école prennent le relais dans cet apprentissage. Apprendre à s'alimenter, c'est la base de la vie quand même.
Très bonne question de Laetitia, Erwan Manteour.
Le premier chapitre de mon livre est consacré à l'éducation. Alors l'éducation, parce que je parle d'empoisonnement, parce que les parents, on peut empoisonner un enfant psychologiquement en étant sous domination, mais on peut aussi empoisonner un enfant en lui donnant l'exemple de manger de la merde constamment, boire de l'alcool, fumer, là on l'empoisonne.
Frédéric Danhé.
Mais je suis d'accord avec Erwan, ça fait partie de mon bouquin également. On fera rien tant qu'on n'aura pas réintroduit les cours de cuisine à l'école. Alors il paraît que ça fait très facho, ça fait très réactionnaire, mais il faut des cours de cuisine à l'école, il faut amener les enfants dans des fermes, il faut amener les enfants à Rungis, il faut amener les enfants dans les marchés, il faut redonner aux enfants le goût du plaisir de manger. Les gens qui mangent mal, c'est des gens qui ne mangent pas, c'est des gens qui bouffent, qui se remplissent. Il n'y a pas de goût là-dedans.
Et Christian, par courriel, nous dit, mais ce sont les parents qui empoisonnent leurs enfants, ils me paraît impossible maintenant d'ignorer la bouffe industrielle. Erwan Manteour.
Ben oui, mais enfin, c'est une prise de décision. On doit consommer autrement et déplacer les choses. C'est très vrai ce qu'il dit. C'est qu'il est vraiment temps de mettre une pensée humaniste et de sacraliser l'alimentation.
Irène Margaritis.
Une pensée, c'est aussi informer la population, c'est-à-dire donner des repères, donner des éléments qui sont des éléments qui ont des bases scientifiques et qui n'est pas seulement le on dit.
D'où l'importance de l'étiquetage.
Laetitia, vous avez le mot de la fin.
Oui, bah écoutez, le mot de la fin, c'est que c'est pas facile parce que c'est apprendre à frustrer nos enfants et à leur apprendre à ne pas forcément écouter ce qui est dit à la télé, ne pas forcément suivre leur instinct qui est de manger, n'importe quoi, voilà, ça demande des efforts et je dis courage les mamans, on va y arriver.
Merci beaucoup Laetitia de nous avoir appelé de l'Isère. Bonjour Janine, vous appelez de la bonne ville de Toulouse.
Oui, bonjour. Bonjour Ali, et bonjour à toute l'équipe, et bravo pour vos émissions qui sont toujours de qualité.
Merci beaucoup. Alors, dites-nous tout.
Alors, moi j'appelle parce que je suis toute jeune retraitée, j'étais intendante en gestionnaire en collège. Et nous sommes longtemps passés par, nous sommes obligés de passer par les marchés publics. Les marchés publics, le critère antérieurement était surtout un critère de prix. Donc la nourriture achetée sur des critères de prix était forcément de mauvaise qualité, puisqu'il est difficile d'avoir qualité et prix à la fois. Et de plus en plus, les collectivités locales se tournent vers les productions bio-locales, ce qui a le double objectif de maintenir une main-d'œuvre agricole locale et de nous donner des produits de bien meilleure qualité. Donc on avait sur la filière, notamment légumes et pain, on arrivait à avoir des lots de plus en plus bio. Donc, par exemple, sur le pain, ça ne revenait pas forcément plus cher puisque le coût du transport était presque nul. Et en plus, sur la filière Hein, par exemple, certaines collègues me disaient que les élèves étaient beaucoup plus vite rassasiés, donc en ration, le poids par élève des rations était inférieur, donc on arrivait à un coût de revient équivalent.
Ce que dit Janine est très intéressant, Frédéric Danhé, surtout que le Conseil constitutionnel a récemment invalidé une disposition concernant les cantines scolaires.
Oui, effectivement, dans la loi, alors je ne sais plus quelle loi c'est, 40% d'ici 2030, 40% de production locale, dont 20% de bio. Alors le Conseil constitutionnel...
Dans les cantines scolaires.
Dans les cantines scolaires. Le Conseil, non, plus que ça, hôpitaux, maisons de retraite, d'accord, etc. Le Conseil constitutionnel a retoqué pour une question législative totalement incompréhensible, mais c'est très important. C'est fondamental, c'est un levier qui est utilisé par beaucoup, je fais juste une toute petite parenthèse, qui est utilisé par beaucoup d'élus, et souvent ce qui pêche, c'est la formation des, vous allez être surpris, la formation des cuisiniers qui en ont oublié le fait qu'ils pouvaient cuisiner eux-mêmes. Dernière chose, dans toutes les cantines bio, il y a beaucoup moins de déchets alimentaires, les enfants font plus attention.
Et Erwan Montéour ?
Oui, et puis on est en République, dans une République laïque, ça serait super de pouvoir proposer des repas végétariens aux enfants, pour qu'ils soient pas obligés de manger de la viande qui est souvent d'origine industrielle, donc pleine de pesticides, pleine d'antibiotiques, voire d'OGM, tout ce qui détruit le microbiote dans les débuts de vie d'un enfant.
Professeur Irène Margaritis.
Oui, c'est une question de quantité. Je pense qu'il faut avoir en tête que parler de végétarien ou non végétarien, on peut pas couper l'alimentation en deux. On a un apport, on peut avoir un apport qui est d'origine carnée, du poisson, donc animal, et une partie végétale. Le problème à l'heure actuelle, et ce qu'on a vu quand on compare les consommations de la population française avec les nouveaux repères que nous proposons, c'est une insuffisance de consommation en produits d'origine végétale qui est énorme, une insuffisance de consommation de poissons. La moitié de la population ne mange pas du tout aucun poisson gras dans la semaine. L'insuffisance de consommation de fruits et légumes, de produits peu raffinés. On va beaucoup vers des produits qui sont beaucoup trop raffinés et qui présentent beaucoup moins d'intérêt que ceux qui le sont moins.
Merci beaucoup Janine de nous avoir appelé de Toulouse. Alors Erwan Montéour, votre livre part du constat que dans nos pays développés, nos enfants seront peut-être en moins bonne santé que leurs parents, avec une espérance de vie en déclin.
Ben, on est dedans. Déjà, l'espérance de vie en bonne santé recule depuis 2006. Trois grands pays sont en recul de l'espérance de vie, les États-Unis, la Russie et la France. Faut quand même se dire que notre alimentation est la plus changée en 70 ans qu'en 3 millions d'années. Juste une petite précision anthropologique. Si on contracte l'histoire de l'humanité à une année, l'élevage arrive le 24 décembre vers 23h59. On est surtout prévu, nous, êtres humains, pour manger des plantes, des racines, des légumes, des fruits. On ne chassait pas beaucoup à cette époque-là parce que c'était se mettre en danger et on avait une espérance de vie très courte, donc on mangeait plutôt des œufs quand on mangeait des protéines animales. C'est la raison pour laquelle nous sommes des omnivores avec des intestins d'herbivores et pas des mâchoires d'omnivores ou de carnivores.
Frédéric Danhé vous regarde avec consterné.
Pas consterné. Anthropologiquement, Néandertal, surtout Cro-Magnon ensuite, étaient des chasseurs. C'est même sans doute ce qui a fait qu'on a pu survivre face aux autres animaux grâce au lien social qu'a favorisé la chasse.
Oui,
il a
beaucoup travaillé là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Mais en réalité, on est ergonomiquement conçus comme des végétariens.
Sauf qu'on a mangé beaucoup de viande. Le régime paléolithique promu par certains, c'est un régime qui revient à l'essentiel qu'était notre époque. C'est-à-dire, moi je suis pas un grand mangeur de viande, c'est-à-dire de la viande, des racines, des fruits, des légumes. Non, on n'était pas végétarien, on n'était pas que frugivore à cette époque-là.
Professeur Margaritis.
Je pense qu'il faut qu'on se replace dans un contexte. Le contexte aujourd'hui, celui de la réponse à nos besoins nutritionnels, avec ce qu'il est possible de consommer, ce que chacun a envie de consommer aussi, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans les aliments qui nous plaisent, les nutriments dont nous avons besoin. Donc il y a beaucoup d'options possibles, mais parmi les options, l'alimentation omnivore en est une, très clairement.
Et Erwan Montéour ?
Alors oui, bien sûr, omnivore, il faut manger un peu de tout, sauf que malheureusement aujourd'hui, on recommande de manger tout le temps de la viande. En fait, on mange culturellement deux fois par jour de la viande. Okay. Au moins une fois par jour. La consommation de viande a à peine diminué, on en mange toujours 5 fois plus que nos parents. Je voudrais juste vous sortir une petite étude parue en 2010 dans la revue américaine Annals of Internal Medicine, qui a suivi 130 000 personnes sur 20 ans. Elle a mis en évidence que manger trop de protéines animales augmentait de 23% le risque de mourir prématurément, crise cardiaque et cancer. Donc voilà, on sait que la base, c'est manger des légumes.
Professeur Margaritis.
Il y a un continuum entre le trop et le pas du tout. Donc depuis quelques jours, donc depuis une semaine, on a de nouveaux repères de consommation. On a très clairement dit qu'il ne faut pas dépasser 500 grammes de viande par semaine, pas plus de 25 grammes par jour de viande transformée, de charcuterie notamment, qu'il faut aller vers du poisson qui va nous permettre d'amener des acides gras longue chaîne qu'on peut difficilement trouver ailleurs. Donc la question, c'est plutôt la diversité et l'équilibre que l'éviction totale. Le problème, toutes ces relations épidémiologiques sont vraies. Elles sont vraies du fait qu'une grande partie de la population est dans l'excès. Donc l'idée, c'est d'essayer de revenir sur une alimentation raisonnable.
Alors, pour nourrir nos enfants, nous ne savons plus vraiment à quel sein se vouer. Nous devrions passer au crible les étiquettes des aliments, mais nous faisons a priori plutôt confiance aux supermarchés, aux hypermarchés, soumis à une stricte réglementation, Erwan Montéour.
Une stricte recommandation, réglementation, mais en fait, vous avez des portes tournantes. Il y a des gens qui sont aux commissions et qui sont dans le privé, qui viennent dans le public, dans le privé. Donc, la réalité, c'est que si vous regardez les étiquettes, il y a un flou artistique extraordinaire. Et franchement, est-ce qu'il y a besoin vraiment de réfléchir pour se dire que lorsqu'on prend des produits chimiques, ça va avoir des conséquences sur le schéma systémique hormonal qu'on a dans le corps? Enfin, alors, faut être complètement absurde pour ne pas en rendre compte.
Alors, les industriels de l'agroalimentaire ont la main lourde hein, sur les additifs suspects dans l'alimentation, OGM, pesticides, colorants. Mais le lanceur d'alerte que vous êtes doit se réjouir hein, que des enseignes suppriment un certain nombre d'additifs de leur rayon. Je pense à Système U qui annonce qu'il interdit 90 substances dans plus de 6000 produits de l'enseigne concernant l'alimentation, retrait de pesticides, de colorants, de conservateurs contre comme la bifenthrine, le BHT, le clopyralide, la phénamidone. C'est une grande avancée. Est-ce que je le dis bien, Frédéric?
C'est parfait, vous pourriez être chimiste.
Ouais, vous devriez vous réjouir.
Mais attendez, non seulement je me réjouis, mais j'espère que les auditeurs vont bien entendre ce que je dis. C'est qu'on a une arme de construction massive dans notre poche. On a une carte de crédit. Et on a réussi à déplacer les centres d'intérêt de certains industriels. Si je vous avais parlé du bio en 1980, j'aurais été un altermondialiste de base, un 68 heures attardé, on serait foutu de ma gueule. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation. On peut faire changer les business models des industriels en consommant autrement.
Et en 2005, Carrefour avait banni 58 des additifs les plus contestés. Alors j'ai l'impression, Frédéric Danhaye, que la prise de conscience est réelle.
Oui, elle est
même si l'industrie agroalimentaire traîne des pieds.
Elle est réelle parce que la culture du public change. Je reviens juste sur la viande. Si on s'est mis à consommer deux fois par jour de la viande, c'est parce qu'on a l'ouvrier a voulu.
Pas de digression.
Mais c'est important. L'ouvrier a voulu copier le patron. Voilà, il y a une culture qui a changé, il y a une génération qui a changé, et aujourd'hui, la génération actuelle est en train de quitter les hypermarchés parce que le modèle ne leur plaît plus. Et pour rattraper ses clients, les hypermarchés font du bio et les hypermarchés demandent aux industriels de retirer les toxines. C'est pas pour des raisons philanthropiques, c'est pour conserver ce marché qui est en train de se développer. Oui, manger c'est voter, ça c'est une certitude, et manger c'est donner c'est un acte social, véritablement, surtout en ce moment.
Professeur Irène Margaritis, une vraie prise de conscience de la grande distribution?
La prise de conscience de la grande distribution est probablement liée, encore une fois, à la demande, et c'est la demande qu'il faut modifier, ce sont nos attentes, et on doit avoir des attentes éclairées. Donc, encore une fois, être informé, avoir conscience du fait qu'on est aussi maître de notre alimentation et de ce qu'on met dans notre assiette.
Mais tout le problème, c'est l'étiquetage. On en revient toujours à ça.
Pensez-vous que l'assiette de nos enfants est empoisonnée ou nos invités sont-ils trop alarmistes? N'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 ou par courriel grandbienvousfasse @radiofrance.com.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait. Je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas.
Albin de la Simone, le grand amour.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h39 et on se demande ce matin comment éviter d'empoisonner l'alimentation de nos enfants avec le lanceur d'alerte Erwan Manteour, le journaliste et écrivain Frédéric Danhé, avec le professeur Irène Margaritis de l'ANSES. Et nous recevons Leïla. Bonjour Leïla.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Toulouse, décidément. Toulouse est à l'honneur ce matin.
Bonjour, bonjour à tous. Moi, j'avais deux questions précises.
Allez-y.
Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez vous y répondre précisément. La première question, c'est est-ce que, bon, j'ai bien compris que le risque zéro n'existait pas, mais est-ce que si on achetait son alimentation, bon, pour les bébés, mais aussi, enfin, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, uniquement dans des magasins bio, donc de la nourriture bio, on réduisait au maximum les risques de toxicité ou de perturbateurs endocriniens ou autres? Et la deuxième question, c'est, donc, moi, j'habite Toulouse, j'ai pas réussi à avoir d'informations précises sur l'eau du robinet. Je voudrais savoir s'il vaut mieux boire de l'eau du robinet que de l'eau en bouteille. Parce que, apparemment, l'eau en bouteille plastique serait, pas très bonne à cause du plastique. Moi, j'ai pas trouvé dans le commerce de bouteilles d'eau en verre. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, faire des biberons avec de l'eau du robinet?
Alors, d'abord, sur la première question, Frédéric Danhé.
Manger du bio, oui, évidemment, mais après, ça dépend ce que vous faites à manger. Si vous faites à manger chez vous avec des produits frais, qu'ils soient bio ou pas bio, vous aurez déjà un avantage. Et la couche supplémentaire, c'est le bio. Pourquoi? Parce que, effectivement, ne serait-ce que pour ça, vous n'avez pas de perturbateur endocrinien. Donc
quoi un perturbateur endocrinien?
C'est une molécule qui est perçue par le corps comme une hormone. Sachant que les hormones agissent selon le moment où elles agissent et non pas selon leur dose, ça peut perturber, effectivement, l'attribution de certaines fonctions à certaines cellules. C'est très embêtant au stade fœtal, c'est très embêtant au début de l'adolescence.
Et on retrouve ces perturbateurs endocriniens dans les résidus de pesticides, c'est ça?
Certains pesticides sont des perturbateurs endocriniens et certains...
Dans l'assiette de nos enfants, donc c'est dans les résidus de pesticides que l'on retrouve dans l'alimentation.
Absolument, et ça peut être aussi dans les plastiques d'emballage alimentaire.
Et ça peut être aussi dans l'eau du robinet, parce que là où on est très fort, c'est que d'un point de vue bactériologique, l'eau du robinet est saine, mais selon les régions dans lesquelles vous habitez, les nappes phréatiques sont touchées, pleines de nitrates, pleines de pesticides. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des pesticides et des nitrates dans l'eau du robinet, dans certaines régions. Donc il faut beaucoup se renseigner et l'État n'est pas très 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 rigoureux là-dessus dans sa façon de nous informer.
Professeur Irène Margaritis, sur la première question de Leïla.
Au sujet des perturbateurs
endocriniens. Et plus généralement, le fait de manger plutôt bio pour éviter ces perturbateurs endocriniens.
Le bio correspond à un cahier des charges, c'est-à-dire qu'une alimentation bio, c'est deux produits identiques d'un point de vue nutritionnel, et j'insiste là-dessus. Entre les deux, le bio peut être plus intéressant. Mais par contre, le bio ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que très souvent, on se donne bonne conscience en mangeant bio et à côté de ça, en fait, on mange de façon déséquilibrée. On peut consommer 3 litres de jus de fruits bio. Pour autant, c'est 3 litres de jus de fruits très sucrés. Donc, il faut vraiment faire attention à ça.
Et Erwan Manteour ?
Bon, de toute façon, ça c'est du bon sens. Quand on parle de bio, on va parler de matières premières qu'il faut cuisiner. tout ce qui est transformé, c'est de la merde. N'achetez pas les produits transformés.
Jean-Pierre Coff sort de ce corps. Sur la deuxième question de Leïla sur les bouteilles en plastique.
Ah oui, il y a des phtalates, il y a plein de produits qui passent, il y a plein de molécules qui passent dans l'eau. L'eau du robinet en France, quand même, en très grande majorité, est saine. Simplement, l'eau est le réceptacle de toute notre histoire industrielle. Donc, dans certaines régions, vous trouverez plutôt des métaux lourds et dans d'autres, des pesticides interdits à 40 ans. Oui.
Merci beaucoup, Leïla de Toulouse. J'espère que nous avons répondu à vos questions.
Vous n'êtes pas. Oui.
D'accord, merci beaucoup, Leïla.
Merci beaucoup.
Frédéric Danhé, oui. J'aimerais qu'on revienne sur un additif alimentaire. L'INRA est en alerte sur le dioxyde de titane qui a un lien avec le développement de cellules précancéreuses chez les rats. Alors, ce dioxyde de titane, appelé autrement le E171, on le retrouve dans les plats préparés que l'on distribue à nos enfants et dans les confiseries que nos enfants mangent abondamment.
Les petites boules qu'on mange partout, là.
Exactement.
Les petites boules chocolatées très brillantes, en fait, oui.
Et non, je veux juste préciser que l'expérience de l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique, c'est 4 rongeurs qui ont développé des lésions précancéreuses sur le côlon. Il y avait 11 rats qui étaient soumis à cette expérience. 4 rongeurs ont donc développé des lésions précancéreuses. L'INRA n'affirme pas que le 171 expose l'homme au cancer, et a fortiori les enfants, mais elle ne dit pas l'institut ne dit pas le contraire.
Attention, la cohorte statistique est très faible, donc on peut pas faire de généralité, mais cela dit, c'est pas tellement surprenant, parce que les nanoparticules sont très petites, et parce qu'elles sont petites, on les retrouve face à l'ADN, dans le noyau cellulaire, dans un dialogue qui est un peu inquiétant, donc on suppose qu'elles peuvent perturber les recombinaisons génétiques au moment de la division cellulaire. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que c'est un produit qui n'a aucun intérêt alimentaire, c'est un produit qui est juste là pour faire beau. Mais j'étends, et on parle bien pour les enfants, mettre un déodorant, vous savez, à un enfant, c'est stupide. Vous avez du dioxyde d'aluminium dans les chaussettes qui sentent bon, qu'on vend dans les grandes enseignes sportives.
On parle d'alimentation ce matin.
Mais c'est le problème des nanoparticules. Il n'y a pas que dans l'alimentation, mais en tout cas, c'est aberrant qu'on tolère des nanoparticules dans l'alimentation.
Oui, ce E171, on le retrouve également dans les dentifrices.
Eh ben oui.
Erwan Montéour. Là j'ai un mail de Déline qui nous dit je suis informée, inquiète, mais je me sens impuissante. La mobilisation est très difficile. Voilà, on donne cette information sur le 171, mais que peut-on faire concrètement?
Changer l'étiquetage, pardon, Erwan. Déjà, si au lieu de mettre E171, on mettait dioxyde de titane, on ferait suffisamment peur aux gens pour qu'ils abandonnent ce produit. Il y a un vrai problème d'étiquetage.
Erwan Montéour, sur cette auditrice qui se sent démobilisée.
Alors les gens sont capables de modifier leur modus vivendi dès lors qu'ils comprennent ce qui se passe, ce qui fonctionne. Donc la base, c'est l'information. Il faut aller chercher les informations. Et alors, le problème, c'est qu'il va y avoir une dichotomie entre, des fois, ce que je vais dire moi et ce que vont dire les représentants de l'État. Parce qu'il va falloir 15 ans de recherche pour que des gens tombent malades, qu'on ait des cohortes de gens qui soient tombés malades, qui aient eu des cancers. Et on va dire finalement, au bout de 20 ans, ben oui, on va retirer cette substance de notre alimentation. Donc à un moment donné, il faut pas attendre. C'est même plus un principe de précaution. C'est indispensable de prendre des mesures. On ne s'expose pas à des produits qui sont chimiques, point.
Le regard de Christophe André.
Oui, mais ce débat, c'est très intéressant. Ce sont les rôles respectifs, finalement, des lanceurs d'alerte, comme Erwan Menteour, parfois, au regard des scientifiques, ils vont un peu trop vite, ils vont un peu plus vite que la musique, ils affirment des choses qui ne sont pas vraiment verrouillées, prouvées, validées, mais c'est leur boulot. Il faut que dans les sociétés, il y ait des gens qui disent « Attention les gars, ce truc-là est quand même inquiétant, préoccupant, même si je n'ai pas 200% de preuves pour le montrer. » De l'autre côté, on a l'impression que les scientifiques parfois freinent le truc, disent « Oui, mais attendez, on ne peut pas... » Mais ils font juste leur boulot. Les scientifiques, ils freinent peut-être un peu au début, ou ils donnent l'impression de freiner, mais après, une fois qu'ils y vont, ils verrouillent le dossier, et là, ça passe au niveau du plus grand nombre. Donc, le problème, effectivement, des consommateurs, des citoyens, c'est de se dire « Mais concrètement, clairement, comme c'est Irène à l'instant qui disait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement c'est le moins possible de produits transformés, le plus possible de fruits et légumes, bio chaque fois que je peux? C'est notre boulot, c'est la pédagogie finalement au sortir de tout ça.
Professeur Irène Margaritis.
Le rôle des scientifiques est absolument central. C'est-à-dire que vous parlez de lancer des alertes, mais les alertes sont lancées sur la base d'éléments scientifiques. Donc les scientifiques
sont. Mais qui produit les éléments scientifiques?
Les éléments scientifiques sont produits par des scientifiques qui
travaillent souvent
Pas tous.
Je dis souvent.
Qui travaillent pour certains pour l'industrie, mais pour d'autres, pas du tout.
Qui est-ce qui produit le plus?
Et il me semble que derrière, on a une expertise scientifique qui va permettre de façon collective et collégiale, justement, de faire la part du vrai, du probable, du convaincant, et qui va permettre ensuite de donner des éclairages pour la prise de décision.
Professeur Irène Margaritis, quels sont les moyens de votre agence, l'Agence de sécurité alimentaire, pour inciter l'industrie alimentaire à éliminer toutes ces substances toxiques de notre alimentation, comme le E171? Quels sont vos modes d'action?
Notre mission, c'est bien l'évaluation des risques sanitaires. C'est-à-dire que nous basons sur des éléments scientifiques, justement, pour évaluer les risques sanitaires. Et c'est cette évaluation qui est à la base, à l'origine de la prise de décision, qui est considérée au même titre parfois que d'autres éléments sur lesquels nous n'avons pas la main. Mais nous donnons cet éclairage scientifique qui est absolument fondamental.
Alors, dans quel cadre est-il possible de mener des recours collectifs, des class action, pour inciter l'industrie agroalimentaire à éliminer les substances toxiques qui empoisonnent, qui nous empoisonnent et qui empoisonnent nos enfants? Frédéric Danhué.
Alors ça, j'en sais rien. Par contre, ce qui marche, et je suis encore une fois d'accord avec Arwen, c'est de ne pas consommer, c'est de boycotter. Et c'est ce qui fonctionne le plus. Ça fonctionne aux États-Unis, ça devrait fonctionner. Mais ça commence.
Ça commence. Moi, j'adore. Je la sors à chaque fois, mais la phrase de Coluche en 82 était extraordinaire. Quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour plus que ça se vende. Mais enfin, est-ce qu'il faut être un intellectuel ou un scientifique pour comprendre que quand on prend des produits chimiques, ça va avoir des conséquences sur la santé? Et je veux répondre au professeur, il faut quand même dire une chose, c'est que sur la production mondiale d'études, mais il y a plus de 70% qui est financé par l'industrie, quoi. Voilà.
Mais ça les rend pas pour autant.
Excusez-moi, ce sont des conflits d'intérêts à un moment donné. On peut pas dire que si demain Coca-Cola finance une étude pour expliquer que Coca c'est bon pour la santé, ils vont payer des scientifiques pour le faire et il y aura deux lignes qui dira que c'est pas dangereux et 800 qui diront que c'est dangereux, mais on retirera les deux lignes qui disent qu'il y a quelque chose qui est dangereux.
C'est bien la vocation de l'expertise scientifique collective que de faire la part des données qui sont produites d'une façon ou d'une autre, avec ou non des conflits d'intérêts, et nous en tenant compte dans nos expertises.
Alors, quels sont, dès ce soir, les premiers gestes à faire si nous ne voulons plus empoisonner les assiettes de nos enfants? D'abord, agiter la carte de crédit, boycotter peut-être certains produits détiennent des substances toxiques. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi concrètement?
Concrètement, déjà, on commence par manger tous les jours des fruits bio, tous les jours des légumes bio. On prend des légumineuses, on va manger principalement de ça. Quand on mange de la viande, on essaye de trouver une viande qui vient d'une filière lin, c'est-à-dire d'une bête qui a mangé ce pour quoi elle est conçue, et non pas des produits qui viennent d'Amérique du Sud et qui sont OGM, parce que 45% en France, ça vient de là-bas, c'est des OGM. On va essayer de manger un petit peu de poisson gras quand c'est des poissons de qualité. Enfin, c'est du bon sens. On donne à notre corps ce dont il a besoin pour se défendre d'un point de vue immunitaire.
Alors, un courriel qui nous dit, vous parlez de faire attention à ce qu'on achète, mais ça me fait doucement rire, en sachant que beaucoup de familles sont en dessous du seuil de pauvreté et font constamment leurs achats alimentaires dans des supermarchés discount. Pas cher, mais bourré de produits chimiques. Professeur Margaritis.
Alors, la question, c'est pas forcément le discount, hein, c'est ce que l'on achète, c'est-à-dire le choix que l'on fait. Que le discount, encore une fois, je prends l'exemple du jus de fruits, mais on peut prendre d'autres exemples, qu'il soit discount ou non, d'un point de vue nutritionnel, l'excès pose problème. C'est l'excès, le déséquilibre, l'absence de diversité qui pose problème.
Et remontez-vous. Bon,
alors les gens qui sont massivement touchés par les maladies inflammatoires, c'est les gens qui gagnent moins de 1 500 €. Et moi, je vais leur dire quelque chose. En 1950, la part du budget ménager dédié à l'alimentation était de 45%. Aujourd'hui, en France, il est de 8 à 12% selon les études. À mettre en parallèle avec la voiture, 18%. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Le temps qu'on ne prend pas aujourd'hui à bien manger, à prendre soin de soi, c'est le temps qu'on va passer à se guérir ou en tout cas à se soigner pendant des dizaines d'années.
Frédéric Danhué.
Ouais, c'est pas aussi facile, mais ce qui a fonctionné aux États-Unis avec Michelle Obama, c'est les chèques alimentaires ciblés sur des
c'est
fruits.
Quoi
C'est-à-dire que le gouvernement fédéral américain loue chaque année à l'agriculture américaine 80 milliards de dollars, dont 60 milliards sous forme de chèques alimentaires, qui sont ciblés sur, en gros, de l'agroécologie, sur du bio, sur des fruits et légumes. Voilà. Et résultat, ça commence à avoir une baisse de la courbe d'obésité, de diabète de type 2, maladie inflammatoire, j'en sais rien, aux États-Unis. C'est une proposition qui a été reprise au mois de décembre par le Conseil économique, social et environnemental.
Professeur Margaritis, un conseil, si on veut éviter d'empoisonner l'assiette de nos enfants.
Apprendre à nos enfants à prendre du plaisir en mangeant.
Exactement.
Et leur proposer dès le plus jeune âge des produits dits sains, mais surtout équilibrés. Leur proposer des légumineuses, leur proposer des légumes, leur proposer du pain qui soit pas toujours du pain blanc, et les habituer d'une certaine façon à prendre ce plaisir-là.
Merci beaucoup Frédéric Danhé, merci Irène Margaritis, merci Erwan Montello. Merci. Je recommande, et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, publié chez Solar, faudra revenir parce que il y a d'autres poisons qui sont présents dans l'assiette de nos enfants, le sucre notamment. Hein. Faudra revenir pour parler.
Juste deux secondes sur le sucre.
Un teaser pour une prochaine émission.
Un petit teaser, moi j'ai été interviewé Serge Ahmed, qui a fait ses expériences sur les rats, que tout le monde connaît. Et en fait, il y a trois circuits de la récompense dans notre cerveau. La seule drogue dur qui stimule les trois circuits de la récompense, c'est le sucre.
Et ben vous reviendrez pour parler
réfléchir là-dessus.
Du sucre très présent dans l'alimentation de nos enfants. À suivre l'intervention de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Pour bien grandir,
ne mange pas
trop gras,
trop sucré,
trop salé.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Rebonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
De Femme Actuelle. Et dans le Femme Actuelle de cette semaine, vous vous demandez s'il faut instaurer le vote à 16 ans. C'est peut-être une façon de réconcilier les jeunes avec la politique.
Oui, c'est tout le sujet, effectivement. D'ailleurs, on leur a posé la question à eux-mêmes. Donc, les lycéens ont été sondés il y a quelques jours. Hein, c'est tout à fait récent. Et 62% d'entre eux y sont favorables. C'est quand même un vivier d'1,5 million de nouveaux électeurs hein, sur les 44 millions d'électeurs que compte la France aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui intéresse y compris les politiques. Certains des candidats à la présidentielle sont pour, comme Mélenchon, Dupont-Aignan, Thierry Soler, qui est le porte-parole de Fillon également, mais pas François Fillon. Voilà, donc c'est un vrai débat. On rappelle aussi que les 16-18 ans ont voté à la primaire de la gauche pour cela, et à partir de 17,5 ans pour ceux de la droite. En fait, tout le sujet, c'est le taux d'abstention des plus jeunes. Enfin, à quoi ça va servir finalement de leur donner le droit de vote s'ils ne l'utilisent pas? Il y a vraiment deux écoles là-dessus.
Alors, quels sont les grands arguments en faveur de l'instauration du vote à 16 ans?
Alors, ça revient effectivement à répondre à cette question. Est-ce qu'ils vont s'en servir? Est-ce qu'ils vont aller voter? Ben, ceux qui sont pour mettent en avant le fait que on les sollicite, on les initie à la vie sociale et citoyenne, plus ils vont s'investir, prendre ce droit et l'utiliser. Et au contraire, on va vous dire, ben non, on se rend compte que les plus jeunes, chez les plus jeunes, il y a un taux d'abstention très élevé. Les 18-25 ans, par exemple, ont été 30% à s'abstenir au second tour en 2012, contre 20% chez la population plus âgée. Donc, on se dit finalement, à quoi ça va servir? À les inciter à voter vraiment ou au contraire à les habituer à s'abstenir? Et la réponse vient peut-être de plusieurs études qui ont été menées au niveau international, puisque certains pays le font déjà, notamment l'Autriche, le Brésil et des Länder allemands qui autorisent le droit de vote dès 16 ans, et bien montrent que l'avancement de l'âge est une réponse à l'abstention des jeunes. Dans ces pays-là, plus ils commencent à voter tôt, plus ils continuent à le faire en vieillissant.
Et puis ce droit de vote à 16 ans, ça peut inciter les politiques à s'adresser aux jeunes?
Absolument, c'est un des aspects. On parlait tout à l'heure là de tous ces sujets passionnants, notamment les perturbateurs endocriniens. Benoît Hamon l'a mis dans sa campagne et il est évident que c'est un des sujets qui intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui.
Alors pour certains, il s'agit d'une mesure hypocrite et contre-productive.
Oui, en fait, effectivement, c'est de se dire, attendez, on va leur donner le droit de vote, mais ils n'ont aucune conscience politique, on ne leur enseigne rien à l'école, ils vont suivre la vie de leurs parents, ça va être assez caricatural. Donc il y a effectivement un peu d'hypocrisie derrière cette mesure, de faire de ces enfants des machines à voter alors qu'ils n'ont absolument pas conscience des enjeux finalement.
Le regard de notre caution morale, Christophe André, sur ce sujet-là?
C'est toujours pareil. Je pense que donner le droit de vote aux adolescents de 16 ans et plus, c'est une très bonne idée, à condition que ça s'accompagne d'une éducation à ce que représentent les élections, à ce que représente ce trésor qu'est la démocratie, d'une éducation politique. Et si les deux vont de pair, alors c'est une merveilleuse idée à EV.
Et Ron Montéour, qui reste avec nous, a envie de s'exprimer.
Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus conscients qu'il y a un problème, parce qu'ils voient qu'il y a de moins en moins de boulot, que leurs parents galèrent, et ils sont révoltés. Donc, leur conscience politique va venir naturellement, parce qu'ils vont avoir envie de changer les choses. Le problème, c'est l'offre politique. qui est insupportable aujourd'hui.
Merci beaucoup Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Ce papier est à lire dans le numéro de cette semaine. Demain, plongée dans le portable de nos ados avec Céline Cabour et Boris Maninti, deux journalistes qui publient Portable, la face cachée des ados. Vous pouvez témoigner sur la relation passionnée de vos ados avec leur portable par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, il y avait Lucas Vaillant et Gaël Braouzek. La programmation musicale était assurée par Muriel Pérez. À suivre, Nagui et sa belle bande originale.